Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver, ou si vous nous rejoignez seulement, merci si vous nous écoutez depuis votre 4L ou votre R5, ça faisait plaisir d'entendre ces marques-là. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain, spécial retour vers le passé, donc en 4L, et Bertrand Chamerois pour son écran de veille, spécial compétition. Notre invité, c'est l'ex-basketteur, désormais humoriste, le comte de Boudarbala. Son deuxième spectacle sort sur la plateforme Prime Video. Et avec un tournage spécifique, Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, en roman sous forme de conte philosophique, Nicolas Carreau va nous en dire plus. Et une série à l'humour très british, c'est Margot Barallon qui va nous la faire découvrir. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe. Bonjour à tous.
Qu'est-ce qui vous fait sourire?
Ah, comment vous avez dit rock? C'est bizarre.
Bah, j'ai dit rock comme rock. Comment vous dites rock
non,
vous-même?
Je ne sais pas, il y avait une drôle d'intonation.
Bonjour Eva Rock.
Bonjour à Poélimo.
Hein, voilà. Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe.
Si vous nous voyez en vidéo sur Europe1.fr, oui, Bertrand Chamerois est venu en pyjama. Panne de réveil?
Non, c'est simplement que le confort prime avant tout quand je choisis mes vêtements. Voilà. Mais c'est très confort.
Dans son pilou-pilou, lors de l'écran de veille de Bertrand ce matin, vous nous parlez de sport avec une compétition pour le moins étonnante.
Oh que oui, et elle n'était pas diffusée sur Canal, mais sur la chaîne L'Équipe. Ah, ça, Canal, pour faire les kékés avec le foot, ils sont là. Mais en attendant, ils sont passés à côté des droits de diffusion de la compétition que tout le monde jalouse.
Les championnats d'Europe de tramway à Bruxelles. 25 équipes, 50 000 spectateurs et différentes épreuves pour les meilleurs conducteurs d'Europe.
Oui, les championnats d'Europe de tramway, oui messieurs dames, diffusés en prime sur L'Équipe dans le cadre de la soirée Jeux Insolites. Je peux vous dire que c'est autre chose que Dijon-Nîmes, hein, les championnats d'Europe de tram. On l'entend moins, Maxime Saada. Eva, je vois que tu es interloqué. Philippe aussi, je vous vois. Alors, pour répondre à vos deux questions, oui, cette compétition est on ne peut plus sérieuse. Et voici le principe.
L'objectif, c'est simple, c'est de conduire le mieux possible cet engin incroyable, le tramway extrêmement puissant, extrêmement lourd.
Mais 6 épreuves à enchaîner en relais en moins de 5 minutes pour les équipes, avec notamment des épreuves de freinage de précision que Florian Gazan et Frédéric Lecano commentent comme si c'était une séance de tir au but en finale de Coupe du Monde.
Il ne faut pas dérailler cette compétition, voilà. Extrêmement nerveuse.
Regardez, prise de vitesse ici.
Ah, au taquet, et attention, là, le freinage.
Voilà. Et à partir de là, voilà, décélération.
La décélération, et là, il faut bien viser.
Cette tension. J'avais l'impression de regarder le Grand Prix de Formule 1 de Singapour alors que c'est juste un tramway qui freine dans les rues de Bruxelles. Enfin, juste, non. On rigole, mais c'est une compétition de puristes, c'est hyper pointu, il faut être calé pour suivre.
Alors avec évidemment des machines qu'on connaît, nous qui aimons le tramway, évidemment, on a là, vous voyez, un Bombardier Flexity Outlook T3000, c'est vraiment le tramway du futur. L'autre articulé plus ancien, c'est le fameux PCC 7700.
Le fameux PCC 7700, je ne connais que ça. Bon, je vous rassure, les termes ne sont pas toujours aussi techniques, hein, comme lors de l'épreuve Rennes, la finale, ma préférée, le bowling. Le tram doit taper dans une énorme boule en plastique pour faire tomber des quilles géantes, sorte de crossover entre Interville et la RATP. Et du côté des commentateurs, bon, on a laissé tomber le jargon.
Allez, attention, bam, bah, c'est parti, est-ce que ça va faire un strike?
Aïe. Oh, la trajectoire catastrophique.
Trajectoire de... bah de merde, on peut le dire.
Voilà, c'est moins technique. Sachez que la France participait à cette compétition, c'est l'équipe de Paris qui nous représentait. Bon, généralement, les compètes européennes, c'est pas trop notre truc, hein. Eurovision, vaccination, mais tramway, ça termine pas en on, donc on a peut-être nos chances.
Félicitations pour nos Parisiens. Bah, vous les croiserez peut-être si vous prenez le tramway à Paris pour les féliciter pour leur performance.
Et ben voilà, la malédiction est enfin conjurée. On la gâte. Pardon, je me suis peut-être emballé trop vite. Ils ont fini à quelle place, les Parisiens?
Ils ont fini 21e de ces championnats d'Europe.
Sur 25.
Non.
La prochaine fois, vous envoyez Marie-Myriam pour conduire le tram, ce sera plus simple. Bon, en tout cas, bravo aux vainqueurs, les Belges, pour une fois qu'ils remportent une compétition face à nous. Bon, c'est pas la Coupe du Monde, mais c'est toujours ça. Et vivement la prochaine compète événement de la chaîne L'Équipe. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette grande compétition, le Tour de Paris en voiture. Ça fait maintenant 2h48 que les participants sont à l'arrêt. Ils ont parcouru 700 mètres depuis le coup d'envoi. La soirée s'annonce passionnante. Hidalgo démission, scandent les participants. À vous Philippe.
Merci beaucoup Bertrand, la question que tout le monde se pose: comment on peut faire une trajectoire de merde quand on conduit un tramway et qu'on est obligé de suivre les rails?
Eh bien, le tramway était vraiment sur les rails, mais la boule a dévié.
Ah, c'est la boule qui a...
Oui, c'est la boule. Ah, c'est pas le tramway. Ah non, ça aurait été
trahi par la boule.
Mais allez voir l'émission en replay, c'est passionnant.
Eva, à quoi ressemble votre zapping du lendemain, le thème du soir, ni la boule ni le tramway?
Non, on va parler de cette autre époque, celle d'avant. Alors pas mieux ni moins bien que celle que nous vivons, mais une autre époque. Et c'était il n'y a pas si longtemps, on est en mai 1960, le général de Gaulle célèbre le savoir-faire français.
Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer.
C'était le jour de la mise à l'eau du plus grand paquebot au monde, le France, fleuron de l'industrie navale française. France 5 retrace l'histoire de ce bateau, mais aussi l'histoire des technologies qui sont nées grâce à ce géant des mers. Les ingénieurs ont notamment développé des structures en acier. L'objectif, c'était d'éviter au maximum l'utilisation du bois, parce qu'à cette époque, des incendies ont ravagé plusieurs paquebots. Exit le bois, donc, enfin, presque.
L'anecdote veut, en tout cas, qu'il n'y ait que trois objets en bois à bord, en dehors du pont Antec. C'est la barre, la roue du commandant, le billot du boucher et la baguette du chef d'orchestre.
Ça, c'est moi. Ça j'avoue,
on
c'est...
On n'était pas obligé, Eva.
Voilà, je suis... Non, j'étais obligé.
C'était même pas dans le doc.
Non, c'est pas dans le doc.
C'est pas possible, quelle escroquerie.
Documentaire technique, mais pas inintéressant, sur le France, donc, qui pendant 12 ans a assuré les traversées entre le Havre et New York, avant donc d'être délaissé au quai de l'oubli, au Havre, pour des raisons financières. Heureusement, en 79, c'est un armateur norvégien qui l'a racheté, l'a rebaptisé le Norway et qui lui a permis de naviguer encore quelques années. Mais ça, évidemment, c'était avant.
Ouais.
Avant aussi, dans les campagnes, il y avait des services publics. Et puis, ils ont disparu peu à peu, laissant les administrés seuls dans leur village et leur campagne, en Picardie. Comme vous pourrez le voir dans un documentaire proposé par France 3, deux femmes ont décidé d'installer leur bureau dans un camping-car. Les voilà sur les routes cabossées, partant à la rencontre des habitants de 32 communes pour les aider dans leur démarche administrative. Trouver un emploi, un logement, des papiers pour la retraite, pour une assurance, un rendez-vous chez le médecin à Calais. Angélique et Émilie tentent de trouver des solutions à chaque problème.
Malheureusement, il y a des personnes où là on est vraiment frustré, on est un peu en colère parce qu'on ne peut rien faire de plus, mais on a quand même réussi à sortir des gens d'un sacré pétrin. Même nous, au démarrage, on s'est dit on n'y arrivera jamais. Et on a trouvé la solution.
Alors parfois, elles ravalent leurs larmes face à certaines personnes qui profitent de leur venue pour exprimer leur mal-être. Elles sont pas psy, mais elles développent une écoute formidable et nous offrent une jolie leçon d'humanité. Et puis, dernier petit conseil pour votre soirée devant les écrans.
On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé.
Offrez-vous une séance de ciné en noir et blanc avec Jeanne Moreau, Oscar Werner et Henri Serre, Jules et Jim, signé François Truffaut, ou l'histoire d'un trio amoureux porté par ce tourbillon de la vie. C'était bien le cinéma avant, hein. Voilà. Je récapitule, la grande aventure du France est à voir sur France 5 à 20h50. Les filles du bus sont à suivre sur France 3 à 23h10. Jules et Jim vous attendent sur Ciné Plus Classique à 20h50.
Merci beaucoup Eva Rock pour ce paquebot et ce bus. Merci Bertrand Chamerois pour ce tramway.
C'est vrai qu'on était raccord une fois de plus.
Nommé des
Diane et Oli. Dans un instant, notre invité, l'humoriste, le comte de Boudébala.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vondel.
Bonjour Samy Améziane.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes humoriste, on vous connaît également de
j'étais
votre nom
humoriste,
de scène.
J'étais humoriste.
Vous ne l'êtes plus ?
Oh, c'est fini, avec par les temps qui courent, c'est terminé.
Vous le pensez vraiment ou c'est une boutade ?
Non, bah, un petit peu fataliste, parce qu'on ne peut plus travailler sereinement malgré tout ce qui se passe. Donc forcément, si on lance un appel. Si vous cherchez un stagiaire, hein, on est là. Voilà, dans quelque domaine que ce soit. Il faut se réinventer, a dit chef.
Donc, En 2010, votre premier spectacle avait dépassé le cap des 1 200 000 spectateurs. Pas à la télé, hein, des gens qui s'étaient vraiment payés. 1 200 000 personnes qui ont payé à leur place. Le deuxième spectacle, votre dernier, Le Comte de Boudherbala 2, avait déjà rassemblé 800 000 spectateurs en 3 ans et demi. L'actualité, il est désormais disponible sur Amazon Prime Video. Ce n'est pas des archives. Vous l'avez rejoué devant une salle, vous faites référence au Covid. Et surtout, la salle est pleine avec des gens qui portent des masques. Vous l'avez joué quand et où ?
Alors ça, c'était après le premier confinement à Paris. Et donc, il y avait encore une tolérance à l'époque pour les spectacles. Et après, voilà, c'est un public de figurants. Mmh. C'est une des rares fois... Enfin, c'était paradoxal parce qu'on a payé des gens pour qu'ils viennent rigoler. C'était dans le cadre d'un tournage, donc voilà, c'était des figurants payés. Donc je me serais dit, un jour tu vas payer des gens pour qu'ils viennent rigoler à tes conneries. Donc voilà, ça c'est fait.
Et ils rigolent dans la salle, en préambule du spectacle. Vous expliquez ce qu'est un bide en matière d'humour, en prenant l'exemple d'un collègue, Arthur, animateur TF1, qui s'était lancé sur les planches. Je commence par ça, parce que vous commencez par ça. Extrait avec, écoutez bien, un extrait dans l'extrait.
Vous connaissez le principe du bide ? C'est très simple. Tu tentes une vanne, ça passe pas. Petit silence, tu finis par « voilà ». En général, quand c'est comme ça, c'est que t'es vraiment galère. Alors, petit exemple de bide d'un collègue humoriste, petit exemple audio.
Le téléchargement, c'est pas bien. On peut finir en prison. On assiste à des scènes d'une rare cruauté dans les cellules. T'as fait quoi, toi, pour en arriver là? Bah, j'ai tué ma femme à la hache. Et toi? Bah, moi, j'ai téléchargé le Roi Soleil. Voilà.
C'est mignon, c'est une bonne guerre. C'est cruel. C'est vraiment la voix d'Arthur?
Ouais, mais après,
vous voulez demander l'autorisation?
Oui, mais après, c'est pas pour le nommer lui. Hein. Bon, lui, c'est un exemple.
J'ai bien
mais
compris.
On fait tous des bides. Hein.
J'ai bien compris. Mais il n'y a que lui qui était cité.
Ouais,
est-ce que vous avez
en fait,
été.
L'extrait, il était tellement marrant et tellement fort. Je me suis dit, ça, c'est une passe décisive. Ça, on peut pas passer outre.
Est-ce que vous avez été invité sur TF1 depuis?
Non, mais on a des bonnes relations. Hein. Moi, j'ai un principe, c'est. Tous les mecs que je chambre, je me dis, est-ce que je pourrais les tailler s'ils étaient à côté de moi? Et en fait, ça passe très bien. Je pense que l'humour, là, c'est important.
Alors, je vais préciser la manière dont vous avez travaillé. Vous aimez forcer le trait sur des sujets grinçants, voire clivants. Vous n'avez pas été censuré par Amazon, ou est-ce qu'il y a eu des coupes?
Bah, c'est aussi pour ça que je suis allé, entre guillemets, sur une plateforme. Parce que maintenant, il y a un truc que les gens ne sont pas conscients, et c'est que maintenant, sur les chaînes, ben, ils te coupent, ils te censurent. Ouais. Ou ils te disent, ben voilà, si tu fais une chariade sur un tel ou un tel, ça, ça passe pas. Donc maintenant, sur les plateformes, c'est beaucoup plus libre, malgré le paradoxe de la plateforme. Quoi.
C'est pour ça que je vous pose la question, parce que là, vous sortez des trucs parfois énormes. Exemple, cette question que vous posez, pourquoi personne ne fait jamais d'humour sur les pierres tombales?
Jamais d'humour, que du mensonge. À mon père magnifique, à ma tante formidable, à ma mamie éternelle. Ta mamie n'était pas éternelle, la preuve est là. Ça va, un peu d'humour sur les pierres tombales, on peut déconner quand même. À mon père, ce sadique qui sortait son chibre dès que maman avait le dos tourné. À ma tante qui a pris en bouche tout le Vaucluse. À mamie qui a lancé la mode de la boule à zéro à la Libération. Oh, jamais d'humour sur les pierres tombales. Il y a vraiment que dans les cimetières juifs, on s'amuse encore un peu. Ici, J. Simon Ben Soussan, mais le magasin reste ouvert du lundi au lundi.
Bravo. Merci Philippe. Voilà, procès demain. Merci.
Merci de faire ça. Vous savez, c'est sur
les affaires reprennent, les amis. Yalla.
Il n'y aura pas de procès demain. Et dans quelques instants, Hélène Manarino va dresser votre portrait inattendu. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Juste le temps pour le comte de Boudarbalade de remettre son masque et lui présenter Hélène Manarino, masquée elle aussi. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Samy Améziane. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors oui, durant votre jeunesse et au début de votre vie d'adulte, vous ne pensez qu'au basket. Votre chambre était remplie de posters de basketteurs. Vous ne pensiez qu'à ça, une détermination de dingue. Revivons tout de suite l'un des moments les plus forts peut-être de votre vie. Votre année à UConn, université américaine, dans le Connecticut, rêve américain total, vous touchiez votre rêve de devenir basketteur professionnel. Vous êtes ému lors de votre nomination dans l'équipe avec votre sœur lors de la Senior Night. Votre coach, Calhoun est là. Alors Samy, on va faire le match ce matin, refaire le match, mais celui de votre vie depuis le début. Votre terrain, votre chambre d'enfant au papier peint décor petit palmier. Oui, avec lit superposé.
Elle connaît tout.
Elle connaît tout.
Enfant très câlin qui aimait sucer son pouce et caresser le lobe d'oreille de la personne la plus proche de lui, même si vous ne la connaissiez pas.
Ouais. Déjà chelou à cet âge-là.
toujours concentré pour enrichir votre collection de pièces de monnaie étrangères, de médailles de judo, de fiches animaux ou de fiches sur l'histoire de France, vos papiers, journaux aussi, car vous adoriez écrire, sportif à 100%, avec les jeunes de votre quartier, jeux de ballon, vélo. Votre meilleure coéquipière, c'était votre sœur, où je crois que niveau bêtises, vous avez marqué le plus de points. Vous régulièrement ensemble votre grand frère en essayant de trouver la cachette de ses économies, évidemment pour lui prendre, fouiller régulièrement dans ses affaires. Vous meniez ensemble la vie du quartier, notamment le 14 juillet, vous faisiez claquer des pétards sous les fenêtres des voisins. Vous chambouliez le local à poubelle.
J'adore, il se marre encore.
Bref, ça vous rappelle des souvenirs.
Je suis ému, ça fait longtemps qu'on ne va pas parler de ça.
Bref, ça ne s'arrêtait jamais. Vous vous êtes, même avec votre sœur, lancé le défi de sauter de la voiture quand votre père était en train de rouler.
Non.
Bon, à 30 km/h.
C'est clair.
Vous l'avez fait ?
Mais moi, j'étais un tel abruti que ma sœur me disait bah, « jette-toi par la fenêtre », je me jetais par la fenêtre.
Mais vous l'avez fait ? Vous avez sauté de la bagnole en route ?
Oui, vous avez été punis après, tous les deux.
J'ai été fait savater, ouais, c'est sûr.
Enfant, avec du caractère, dans votre chambre, il faisait très froid l'hiver car votre frère ouvrait systématiquement la fenêtre quand il faisait des températures négatives à l'extérieur. Vous ne supportiez pas ça. Et ce n'est pas tout. Dès 3 ans, vous faisiez comprendre les choses. Vous aviez les cheveux longs, vous prenez souvent pour une petite fille. Et un jour, sur la plage de Saint-Malo, une dame a dit à vos parents « Quelle jolie petite fille, qu'avez-vous fait ? Vous avez baissé votre maillot de bain en affirmant « Je ne suis pas une fille, je suis un garçon, j'ai un zizi. »
Non,
oui. Ouais, c'est clair.
Ouais, la dame de Saint-Malo nous écoute.
Déjà exhibe si jeune, c'est grave.
Enfant malin, vous vendiez votre muguet pour gagner un peu d'argent. Samy et Méziane, sérieux à l'école, vous insistiez le dimanche pour rentrer tôt de balade avec vos parents car il y avait école le lendemain. Et ça, c'est niveau pro A de faire ça.
Votre bouffon maximum.
Votre premier coach qui vous a marqué, c'est Madame Patron, maîtresse stricte, mais qui vous aimait beaucoup et qui vous demandait de l'aide pour les corrections, parfois. Tout grand sportif doit aussi se reposer. Vous, c'était devant Podane ou le capitaine, croque-vacances, en écoutant aussi Gérard Lenormand, Pierre Bachelet, Rod Stewart, avec l'une de vos conquêtes, évidemment, Samy, c'est bien évidemment Cindy, votre premier amour en CE1. Vous voliez les gommes.
Vous l'avez cueilli avec Cindy.
Non, mais là, vous m'avez tué. Là. Ouais.
Vous voliez les gommes de votre sœur.
Ce dossier.
Pour lui offrir.
Exactement, pour lui offrir. Non.
Repousser vos limites en permanence, vous courriez avec des baskets à ressort avant chaque entraînement pour être encore plus performant. Et oui, alors Samy et Méziane, vous avez constitué vous-même votre équipe pro pour faire vos plus belles parties, vos plus beaux matchs, vos enfants, vos frères et sœurs, votre maman à qui vous avez organisé les 70 ans en surprise, en réunissant tous ses proches, vos amis qui se plaignent, oui, de votre côté pas ponctuel du tout, du côté j'annule un rendez-vous à la dernière minute, mais l'envie de mettre l'ambiance est toujours là. Là-dessus, souvent. Eh oui, gala. Ou en dansant la salsa, vous avez très vite abandonné. Alors, Samy et Méziane, vous dites souvent, il faut faire ce que l'on sait faire. Vous avez toujours cru en vos rêves. Le basket est encore en vous, d'ailleurs. Mais surtout, il y a une certitude, le match n'est jamais fini.
Le petit orgue à la fin des matchs de NBA. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Enfin, réaction
ça... Je suis ému. Hélène m'a ému dès le matin. Bravo, Hélène, hein, parce qu'elle a sorti des dossiers d'outre-tombe, comme ouais. On dit. Hein, entre les gommes parfumées que je volais à ma sœur pour l'offrir à une fille qui ne m'a jamais calculé, d'ailleurs.
C'est pas vrai.
Ah ouais, non, elle était cruelle avec moi. Et c'était c'est marrant. Bah, c'est plein d'anecdotes de famille. C'est ce qui est magnifique. Ouais. Hein.
Voilà.
Donc, Hélène, bravo.
Vous et vous l'avez revue. Et vous l'avez revue, Cindy.
Ouais, je crois qu'elle était venue au spectacle, voir le spectacle.
Et alors, elle a ri ?
Ouais, elle a ri. Et puis.
Elle ne vous a pas jeté les gommes.
Et puis, je vais récupérer mes gommes. Mais rends-moi mes gommes. Non. Ouais. Mais c'est l'avantage du spectacle, c'est qu'on revoit tout le monde, en fait. Tout le monde revient vous voir. Et puis, c'est génial.
Il y a une dame qui nous a appelé de Saint-Malo qui a dit qu'elle n'a pas du tout été choquée. Merci beaucoup, Hélène. À demain. Culture Média continue. Hélène. Dans un instant, notre première indispensable lecture avec Nicolas Carreau. Il va nous faire découvrir un roman à la limite du conte, mais du conte philosophique.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du comte de Boudherbala, l'humoriste alias Samy et Méziane de son vrai nom, votre dernier spectacle, le comte de Boudherbala 2, désormais disponible sur Amazon Prime. Votre humour, c'est d'abord de l'observation. Vous partez d'éléments peut-être authentiques dans l'actualité. Il y a un sketch, vous faites rire avec un braquage de boucherie, mais c'est pas une élécubration, ça a vraiment existé.
Oui, ça existe.
Mais ils n'ont pas braqué la caisse, ils ont braqué la boucherie.
Oui, ils ont braqué la boucherie. Bon, c'était un fait divers. Mais en fait, je m'inspire de beaucoup de faits divers qui arrivent, mais j'essaie de les rattacher à un contexte sociétal, social, sociologique. Mmh. Et donc là, je parle de la crise dans le spectacle. Et je dis, c'est tellement la crise dans certains endroits. Il y a même des braqueurs qui ont braqué une boucherie en demandant, bien sûr, de la viande. Donc là, c'est pas du tout drôle. Tu le vends très mal, Philippe, excuse-moi.
Là, c'est pas mon métier, c'est pour ça.
Mais c'est pour ça qu'il faut voir le spectacle. Ouais. Parce que dans le contexte, c'est un peu plus risible.
C'est, voilà.
Il y a un peu plus de rictus.
Et il dit, rajoute du mou pour mon chat ou quelque chose comme ça, mais je sais pas le faire, je sais pas bien le vendre.
Ouais, non, t'inquiète, hein, c'est pour ça qu'il faut, faut voir le show. Mais ouais, c'est un petit peu ça. Donc c'est des faits divers, et à partir de ces faits divers-là, on raccorde sur des faits de société qui veulent dire des choses, en fait. J'étais très relou là-dessus.
Ouais. Non,
j'ai saoulé tout le monde.
Pas du tout.
Ça donne pas du tout envie de le voir, le spectacle.
Si, justement, pour comprendre pourquoi cet extrait m'a plu, alors que c'était différent dans la manière dont vous avez parlé. Vous dites avoir peur de faire une François Feldman. C'est quoi une François Feldman?
La François Feldman, c'est forcément c'est le suicide médiatique. François Feldman, on se souvient, il était au Téléthon, il était là, il dit « Allez, tout le monde debout !» devant des myopathes. « Tout le monde debout !» Et après, il rattrape « Là-bas !» Donc ça, c'est le cauchemar de tous les artistes.
Ça veut dire
que François Feldman.
Ça veut dire qu'il y a des sujets que vous évitez désormais?
Alors moi, sur scène, je traite des sujets que je veux. J'ai pas d'autocensure. Mais la censure, elle est chez vous, les amis.
Ouais.
Elle est plus chez les médias. Radio, télé, internet, ça va encore. Mais encore que, parce que c'est compliqué. Mais nous, sur scène, on n'a pas de censure. Hein. On est tranquille. Quand on est entre quatre murs avec le public pendant deux heures, on peut aller hyper loin. C'est vraiment discussion à bâton rompu. Donc, il n'y a aucune censure sur scène. Et c'est aussi pour ça que les artistes souffrent actuellement. Parce qu'ils peuvent pas aller aussi loin qu'ils peuvent. Regarde, en radio, bon, je vais parler d'un sujet, si on parle d'un sujet précis.
L'au-delà, par exemple.
De
l'au-delà.
Tu vois, ça, c'est ton côté mystique, c'est un côté partouzeur, un petit peu.
Pas du tout, c'est mon côté journaliste, parce que l'enchaînement est tout trouvé avec Nicolas Caro. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il est bon, Philippe, sur la transition.
Et oui, parce qu'il nous propose, une visite un peu particulière de l'au-delà.
Oui, mais alors, c'est pas une séance de spiritisme,
ouais.
C'est le roman de Gaspard Koenig, L'Enfer, aux éditions de l'Observatoire. Vous connaissez L'Enfer de Dante, la visite des neuf cercles de l'enfer, avec des images d'horreur, des sévices terribles. Eh bien là, c'est une autre vision, on suit un type, un ancien prof de fac, il vient de mourir, il est dans les nuages, il est un peu perdu forcément, et puis il tombe sur une sorte de fonctionnaire de l'au-delà. Il se présente, on le fait patienter, mais bon, il n'est pas très inquiet, il a eu une vie sobre, voire terne, mais au moins, il n'a pas trop de doutes sur sa destination.
Oui, le paradis.
Normalement. Le fonctionnaire de l'administration céleste lève la tête, il lui sourit, sourire de fonctionnaire, et il lui montre une direction, toujours dans les nuages. Alors le narrateur se lève, il marche par là, il est crevé, il est toujours un peu perdu, tout est brumeux, et puis soudain, il est arrivé, et il découvre l'enfer, en fait. Et je laisse Gaspard Koenig vous expliquer à quoi ça ressemble.
Alors à quoi ressemble l'enfer aujourd'hui? C'était un peu ça ma question. Et alors l'enfer, à quoi ça ressemble? Je me suis dit, mais précisément l'enfer, c'est ce que je me dis à chaque fois que j'y suis, quand je suis dans un aéroport. Je me dis, mais c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer, alors que pourtant, c'est très confortable, c'est très douillet, on passe d'un duty free à l'autre, on a des petites boissons, on a des grands fauteuils, tout est bien organisé. Si on a le moindre problème, il y a toujours des gens qui viennent s'assurer que nos besoins sont satisfaits. Et pourtant, j'ai quand même le sentiment que c'est l'enfer, parce qu'on est toujours en mouvement, on est toujours dans une foule. On a pour personnalité, pour individualité, singularité, qu'un petit billet avec un numéro.
L'enfer, c'est un aéroport?
Eh oui, un vrai. Et un super bien en plus. Les Danais ont un compte en banque toujours plein, tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez acheter absolument ce que vous voulez dans toutes les boutiques, et il y en a plein de l'aéroport. Le héros, d'ailleurs, en profite pour s'offrir un super costume de marque dont il n'aurait jamais osé rêver quand il était sur Terre.
Mais alors, quand on est dans cet aéroport, on est bloqué, on ne peut pas prendre l'avion?
Alors si, c'est même obligatoire. Ah. Vous devez voyager, vous tapez les portiques de sécurité, etc. Mais, vous atterrissez dans un autre aéroport et vous ne pouvez pas non plus en sortir. Et si vous ne voyagez pas, vous ne pouvez pas acheter, en fait, il faut absolument une carte d'embarquement pour pouvoir acheter.
C'est le tonneau des Danaïdes.
Et voilà, et le problème en plus, exactement, c'est que tout est rapidement périssable. Le joli costume, par exemple, deux jours plus tard, il est en lambeaux. Et donc, le héros est obligé de trouver une carte d'embarquement pour s'en racheter un. De toute façon, à quoi bon vouloir en sortir? Tous vos désirs,
supplice de Tantale.
Absolument tous.
On s'y lâche pas l'affaire.
Mais sauf que, mais si, c'est un peu ça, sauf que là, c'est tous les désirs qui sont satisfaits à la demande, mais c'est justement ça l'enfer, Gaspard Koenig.
Et c'est un peu le paradoxe du désir et de la satisfaction des désirs dans la société, c'est qu'au fond, le jour où tout sera réglé et où on aura enfin accès à tout, ce qui est notre objectif, eh bien, on sera extrêmement déçu parce qu'on s'apercevra que la satisfaction des désirs, si elle n'est pas liée à une souffrance, si elle n'est pas liée à une recherche personnelle, si elle n'est pas liée à une quête ou à une errance, devient extrêmement, d'abord, ennuyeuse et ensuite, en fait, totalement vaine.
Au fond, c'est pas un roman, c'est un conte philosophique.
Exactement, mais en plus drôle. Et ça va vite, on s'ennuie jamais, contrairement à certaines visions du paradis.
Quand on y pense, d'ailleurs, le paradis, c'est pas facile non plus comme question, parce que Imaginez le paradis comme on le représente souvent, comme une sorte de paradis champêtre, avec des petits oiseaux, des grands jardins, mais ça doit être extrêmement ennuyeux pendant, au bout de quelques jours. Alors vous imaginez, pendant des millions d'années, c'est vertigineux.
Et est-ce qu'on visite également le paradis dans le roman ou est-ce qu'on reste en avion?
Oui, mais je ne vous dis pas à quoi ça ressemble, ni si le héros pourra y accéder ou non finalement.
Il faut lire le livre, ça s'appelle L'Enfer de Gaspard Koenig.
Bon,
c'est aux éditions de l'Observatoire, ça vous a tenté, ça vous a fait rire en tout cas.
Ah bah oui, c'est
ça l'attentale.
Ah bah, le mec, il a essayé de se donner tous les exemples possibles et imaginables de mythologie. Mais forcément, c'est un peu la quête de notre. C'est la quête de sens. Donc la quête de sens des uns n'est pas celle des autres. Qu'est-ce que je suis relou.
On va finir sur
ça. Donne pas du tout envie de voir le spectacle. C'est plus marrant au spectacle.
Oui, mais ça donne envie d'acheter le livre. Merci beaucoup, Nicolas Caron. On peut vous retrouver dimanche sur Europe 1 dans votre émission La Voix et Livre à 14h. On parlait de quoi?
Je visite la bibliothèque d'un ministre en exercice, Bruno Le Maire.
Oh là là, il a le temps aussi de faire visiter sa bibliothèque.
Bah, il a le temps de lire, ouais.
J'ai hâte d'entendre. Il a même eu le temps de sortir un livre. Vous avez vu ça? Ça a créé une polémique.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Sami Amezian, le vrai nom du comte de Boudherbala, humoriste, dont on peut voir le spectacle sur Amazon Prime. C'est en vidéo. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour.
Là, c'est pas sur Amazon Prime, c'est sur Arte TV. Margot, vous avez déniché une petite série perlesque, parce que c'est une petite perle, dites-vous, britannique. Ça s'appelle Mom.
Oui, et c'est donc une sitcom, série plutôt comique, avec des épisodes courts. Et c'est le principe qui se passe toujours au même endroit. En l'occurrence, l'endroit, c'est chez Cathy, dans une banlieue pavillonnaire anglaise. To buy the whiskey for the way, and I sure would like some sweet company. Alors Cathy, c'est la maman du titre, elle a 59 ans et la série commence, elle vient juste de perdre son mari. Elle se retrouve donc avec sa famille qui vient l'épauler pendant cette période difficile. Enfin, l'épauler, c'est vite dit parce qu'en réalité, ils sont tous absolument insupportables. Son fils, c'est un ado attardé qui traîne en caleçon toute la journée. Ses beaux-parents, ils misent sur le fait d'être vieux pour qu'on leur pardonne d'être objectivement méchants. Et puis, elle rencontre Kelly, sa belle-fille, très sympathique, mais pas franchement futée et surtout très maladroite.
Cathy, je voulais te dire, je suis tellement désolée pour ton mari. Il a mis si longtemps à mourir. Je pourrais t'emprunter une culotte. Je me dis que pour un enterrement, je devrais en porter une. Désolée, je ne sais jamais quoi dire. Le seul enterrement auquel j'ai assisté, c'est celui de mon chien. C'est bizarre de t'emprunter une culotte?
Non, t'inquiète pas, ça arrive tout le temps que ma belle-fille m'emprunte une culotte le jour de l'enterrement de mon mari. Hein. Alors vraiment, Cathy, c'est la résilience, la patience incarnée. Il faut rajouter aussi une belle-sœur super snob. Vous voyez le tableau, hein, compliqué quand même de vivre un deuil dans ces conditions. Eh bien, même ça raconte ça, la vie qui continue, bon gré mal gré, pour cette jeune sexagénaire.
Et vous l'avez dit, c'est comique, Margot, hein, c'est pas plombant.
Alors non, pas du tout, mais c'est pas non plus la sitcom burlesque qui va vous faire hurler de rire. On est dans un humour british, plutôt une série douce amère qui arrive, c'est assez impressionnant, à rendre le quotidien poétique. On voit les personnages débarrasser de la vaisselle ou aller aux toilettes, et pourtant, ça devient touchant, émouvant. Ah. Et puis, la série capture aussi le fossé entre les générations. Écoutez par exemple ce dialogue entre Cathy et Debs. Debs, c'est une amie de Kelly, donc elle a 25 ans. Et c'est juste avant que Cathy, quelques mois après la mort de son mari, s'apprête à retrouver un date.
Tu connais les règles pour un premier rencard?
C'est un rencard.
Je ne sais pas comment ça se passait dans les années 40, 70 plutôt. Mais aujourd'hui, si tu couches, t'es une pute. Et si tu couches pas, t'es frigide.
Mais c'est pas un rencard, ma chérie. C'est juste un homme que j'ai rencontré sur Internet. Il a perdu sa femme l'an dernier. C'est pas romantique.
Avant Ryan, j'avais une technique. Je ne couchais pas avec les garçons avec lesquels j'avais envie pour ne pas perdre leur respect. Et je couchais avec ceux avec lesquels j'avais pas envie.
Excellente stratégie.
Alors là, vous avez que le son, évidemment, avec l'image, c'est encore mieux parce que tout ne tient parfois qu'à des regards, des mimiques. Le casting est d'ailleurs très réussi. Il est porté par l'actrice principale qui s'appelle Leslie Manville et par Peter Mullan, excellent acteur écossais qui lui joue le meilleur ami de Cathy, visiblement amoureux d'elle depuis 40 ans. Voilà, même c'est la série parfaite pour adoucir un peu votre rentrée.
Voilà. Et puis, doublage maison fait par nos journalistes. On a reconnu la voix d'Angèle Châtelier. Où est-ce qu'on peut la voir, cette série?
Sur le site d'Arte, arte.tv. Donc, 3 saisons à déguster gratuitement.
Vous avez beaucoup rigolé, Sami Amezian.
Ouais, j'aime bien. Bah, j'aime bien cet humour anglo-saxon. Pourquoi ? Parce que ça pense out of the box,
ouais.
En dehors de la boîte. Ouais. Ce qu'on arrive peu à faire en France, malheureusement, parce que quand tu vas voir un producteur, tu lui dis voilà, j'ai envie de faire une série sur une femme qui vient de perdre son mari. Il dit oh là là, c'est plombant, c'est ci, c'est ça. Alors qu'en fait, sur tous les sujets, tu peux faire de l'humour.
Et c'est du vécu.
C'est une question d'écriture.
C'est du vécu en tant que comédien. Vous êtes déjà allé voir des producteurs pour leur proposer une idée de série et vous êtes fait recaler ?
Pas vraiment.
Ouais,
peut-être par le passé, mais après tu essaies de faire les choses toi-même. Moi-même, je produis des choses, mais c'est pour ça. C'est parce que justement, à force d'avoir des refus, bah, finalement, tu fais ton truc de ton côté et ça fonctionne. Et maintenant, avec les possibilités qu'il y a sur Internet, sur les plateformes, bah, justement, ça a équilibré le rapport de force de ce qu'on peut proposer en télé, les refus qu'on peut avoir en télé. Et c'est là où je vois Arte, justement, on les attendait pas du tout dans ce truc-là, et ils ont pris ce créneau qui cartonne.
Ouais.
Et c'est hyper intéressant de voir ça en France.
Et cette série, elle est à voir sur arte.tv, pas sur Arte, ce que nous expliquait Patino. Il y a parfois des productions propres qu'on
Exactement.
Ne trouve que sur le
et
site.
Et notamment
dédié.
Beaucoup de séries comiques britanniques en ce moment sur arte.tv.
De la chaîne. Merci beaucoup, Margot Barallon. Vous restez avec nous, Samy Amezian, alias le comte d'Oubou-Darbala. Dans un instant, la dernière partie de Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Culture Média, suite et fin, hélas, la dernière ligne droite, le comte d'Oubou-Darbala, alias Samy Amezian, je rappelle votre dernier spectacle, le comte d'Oubou-Darbala 2, on peut désormais le voir sur Amazon Prime en vidéo. Je l'ai dit, vous aimez bien forcer le trait, des sujets grinçants, voire clivants. Par exemple, vous parlez du terrorisme, vous dites parano lorsque vous êtes en terrasse, je rigole, ce que vous dites, j'ai la barbe, c'est pour tromper l'ennemi. Et vous vous moquez des noms en abou, expliquez. Abou, ça veut dire quoi et pourquoi vous vous moquez
Alors
de ces noms-là ?
Non, c'est pas les noms en abou, c'est tous les gars qui se revendiquaient de Daesh, justement. Ouais. Qui partaient en Syrie et qui prenaient des noms de guerre. Donc Abou, en gros, c'est le guerrier. Tu avais même un gars qui s'appelait Abou al-Normandie, parce qu'en fait, c'est l'origine du mec. Et c'est soi-disant, tu vois, là-bas, pour les identifier. Donc le gars en question s'appelait Abou al-Normandie, parce qu'il venait du Calvados. Donc j'ai dit, faut arrêter les conneries un moment, quoi. Tu vois, c'est.
Jamais eu peur qu'il y ait des salafistes qui vous attendent à la sortie d'une salle ?
Non, mais après, moi, je pense qu'il faut rigoler avec tout le monde. Parce que c'est par le biais de la confrontation avec l'autre qu'on fait avancer le débat.
On est tous d'accord avec ça, mais est-ce que tout le monde est de votre avis ?
Bah justement, c'est après. Alors, c'est un spectacle d'humour. Il faut savoir que si déjà les gens font la démarche d'aller dans une salle pour rire, déjà, il y a une possibilité de consensus. Mmh. Ensuite, si à la sortie, tu as des mecs qui veulent parler avec toi, pourquoi ne pas discuter avec eux ? C'est ça, après, je pense, qui ferait avancer le débat, le schmilblick en France. C'est justement le fait d'aller vers l'autre et de le laisser avancer ses arguments.
Et ça vous est déjà arrivé que des gens viennent vous attendre pour discuter, même à la sortie d'une salle ?
Ça peut arriver, ouais. Après, si j'ai le temps, je discute. Si j'ai pas le temps, on voit plus tard. Mais il faut toujours laisser l'opportunité d'échanger, c'est important.
Et vous êtes d'origine algérienne. Vous étiez allé jouer en Algérie en 2015. Vous avez joué le spectacle intégral où il a fallu couper, adapter, édulcorer ?
C'est pas édulcorer, c'est qu'en fait, chaque société a ses tabous. Mm-hmm. C'est-à-dire que pourquoi je vais aller dans un pays et justement parler de choses qui vont choquer les gens ? Je suis pas là pour les choquer, je suis là pour rire avec eux. Donc en fait, il faut adapter les tabous français, c'est pas les tabous algériens, c'est pas les tabous américains, et donc il faut juste savoir identifier et adapter son spectacle au public devant lequel on est.
Ouais.
C'est juste ça, je pense.
Alors je précise, dans le spectacle, évidemment, que j'ai vu en entier, il n'y a pas que des histoires grinçantes de tabous, de religion, il y a aussi des sujets totalement quotidiens. Vous aimez le sport, Hélène l'a dit, vous avez failli devenir basketteur professionnel. J'aime beaucoup le passage sur le Tour de France, plus précisément sur les fans qui encouragent les coureurs dans l'école. Vous les avez bien observé là aussi, et vous ne les avez pas ratés.
On avait une dizaine de supporters du Tour de France, les mecs, ils sont sur le bas-côté. Dès que t'as un cycliste qui passe, il lui court après pour l'encourager, lui crie dans les oreilles. Allez, allez, vas-y, allez, allez, tiens presque. Mais pourquoi tu fais ça? C'est son boulot, mec. T'aimerais, toi, au bureau, qu'il y ait une dizaine de connards qui viennent te crier dans les oreilles. Allez, va ta réunion, agresse le dossier, va boire un café, un dixième café, un vingtième café. T'as les dents trop crimérie, bravo.
J'adore, à propos de votre boulot, les gens applaudissent. Vous avez investi votre argent dans un théâtre, le République à Paris.
Et j'ai tout perdu.
Ça n'est ma question. Est-ce qu'il existe toujours le théâtre ?
Ouais, il existe toujours, mais bon, avec la crise actuelle, c'est très compliqué. Donc moi, je regrette pas ça parce que voilà, c'était un rêve d'enfant d'avoir une salle pour pouvoir faire une programmation, pour pouvoir jouer quand je voulais. Pour moi, c'était un rêve. Donc je regrette absolument pas.
Vous avez tout perdu, mais le théâtre n'est plus à vous.
Si, enfin, je dis, je déconne.
C'est une manière de dire. Non, parce que
j'ai tout perdu.
Ma question était sérieuse. Est-ce que les aides gouvernementales ont été suffisantes ? Est-ce que vous avez dû virer des gens ? Question vraiment technique.
Alors, en fait, avec le co-dirigeant Jean-Philippe, en fait, on a mis les gens en chômage partiel. Ouais. Après, il faut savoir que les aides, elles sont sur les productions. Il y a des aides spécifiques sur les salles, mais bon, ça va jamais nous aider à rembourser et les loyers et les crédits, parce que nous, en fait, on s'est mis à crédit sur plusieurs années pour pouvoir avoir cette liberté de pouvoir travailler tranquillement.
Si vous voulez faire quelque chose pour le comte de Bouderbala, allez voir son spectacle. Le comte de Bouderbala 2 est disponible sur Amazon Prime avant que les salles réouvrent, parce qu'elles vont bien finir par réouvrir. Merci Samy Amezian d'avoir été avec nous. Culture Média continue, mais demain nous serons à 9h avec le producteur Franck Saura qui vient nous parler de l'émission La Lettre sur France 2, au programme des déclarations d'amour, des demandes en mariage avec des chanteurs très 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 connu, chanteur et chanteuse. Et puis le chanteur Plastic Bertrand. Vous vous souvenez de Plastic Bertrand ?
Bien sûr.
Ça Plastic plane Bertrand, pour moi. Oui. Il est de retour après 10 ans d'absence. Un nouvel album, dis donc, c'est mystique. Ça s'appelle L'expérience humaine. Et juste après le flash.
C'est le moment de revenir, Plastic. Bravo, t'as bien choisi.
Juste après le flash, Anne Roumanoff, ça fait du bien. Je vous dis à demain. Merci encore, Samy Amezian. Salut.
Merci à vous. Bye.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.